Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co.
Alors vous êtes de plus en plus nombreux à rouler en voiture électrique. Près de 220 000 nouveaux véhicules ont été immatriculés l'année dernière en France. Et comme à chaque fois, se pose la question de la recharge qui commence souvent dans la rue, sur les bornes, dans les stations publiques. Alors l'objectif fixé par le gouvernement, c'était d'atteindre 100 000 bornes de recharge. Bonjour Julien Bonnet.
Bonjour Pauline.
Alors est-ce qu'on a atteint cet objectif en 2022 ?
Et non, pas encore. Donc on est pas encore aux 100 000 bornes, donc l'objectif qui a été formulé en octobre 2020. On était à un peu plus de 82 000 points de charge au 31 décembre 2022, donc selon le dernier rapport de l'AVER. Donc l'objectif, il est manqué donc pour fin 2021, donc la première année où il devait être appliqué. Encore l'an dernier, mais de l'avis des professionnels en fait du secteur, cela restait un bon principe en fait de fixer ce cap. On l'a manqué, mais finalement on savait que c'était un but à atteindre en soi.
La dynamique est bonne, quoi.
C'est ça, exactement. J'allais dire, la dynamique reste très favorable, en fait, avec une progression de 53% de nombre de bornes en 2022. Donc on en a ajouté 28 400, et c'est vrai que c'est ce rythme qui est impressionnant, c'est que finalement les années précédentes on était plutôt autour de 3 000-4 000 installations par an. Là sur deux ans on a eu plus 50 000 bornes, donc c'est vraiment impressionnant. On était à 35 000 en fait début 2021, donc ça permet aussi d'apprécier voilà cette progression assez forte. Pour Arthur Joannick du cabinet LCP Delta, donc en fait, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur transition énergétique. Lui, il trouve que finalement, il faut aussi s'intéresser à ce développement des bornes qui suit finalement les ventes de voitures électriques. Ça, c'est très important pour garder un bon ratio entre le nombre de voitures électriques en circulation, comme tu l'as rappelé, avec les bonnes ventes en 2022. Et donc là, pour le coup, il trouve que c'est un bon rythme. Mais finalement aussi, ce qu'il faut anticiper, c'est justement le parc qui vient de franchir les voitures qu'on peut brancher. Donc si on ajoute les voitures électriques
et les hybrides rechargeables,
voilà, c'est ça. On a passé un cap symbolique en 2022. On a 1 million de véhicules branchables en circulation sur les routes de France. Donc ça se décompose en 690 000 voitures 100% électriques et 412 000 hybrides rechargeables. Et donc finalement, voilà, c'est des gens qui vont forcément chercher à se recharger. Mais ce qui est intéressant de regarder, voilà, c'est ce réseau aujourd'hui, de quoi il est constitué en termes de puissance.
Oui, est-ce que c'est de la recharge rapide, voilà, pour de la recharge plus lente.
Et en fait, finalement, pour l'instant, il est encore massivement constitué de bornes assez lentes. Hein. On est 35% de points de charge qui sont à moins de 7,4 kW, donc on parle vraiment de recharge lente, et 53%, donc finalement le gros du parc, qui est entre 7,4 et 22 kW. Donc après, il sera intéressant, bien sûr, de voir comment va se développer
la charge rapide.
Et aussi, il est intéressant de regarder la disponibilité du réseau. Hein. L'AVER, il communique le chiffre de 84% du réseau disponible en 2022. Ça voulait dire ni en maintenance, ni hors service.
Donc il y a des bornes et en plus elles fonctionnent, c'est déjà pas mal.
Voilà, mais on peut retourner ce chiffre hein, en disant que 16% du réseau était indisponible et on a tous, enfin quand on a vécu voilà l'expérience d'une borne en panne, forcément ça peut poser problème. D'ailleurs ce taux il tombait à 76% en décembre sur les bornes ultra rapides, donc un point à surveiller aussi. Ces bornes, c'est bien d'en installer, mais il faut qu'elles fonctionnent derrière.
Oui, et pourtant cette charge ultra rapide elle est essentielle si on veut faire des longs trajets en voiture électrique.
Bah oui, complètement, c'est ce qu'on rappelle souvent, bien sûr, avec cet objectif aussi d'équiper massivement les aires d'autoroute hein, et faire que la voiture électrique elle puisse devenir vraiment la seule voiture du foyer, celle avec laquelle on fait les petits déplacements du quotidien, mais aussi le long trajet, plus ou moins deux fois par an. Et finalement, l'idée générale, c'est que la puissance de la borne elle doit être adaptée au lieu où vous vous rendez et au temps d'immobilisation, bien sûr, sur place. Donc sur une aire d'autoroute, typiquement, on va pouvoir recharger, on va vouloir recharger rapidement, et c'est aussi pour une question aussi de laisser la place aux autres utilisateurs qui vont arriver derrière. Et j'en parlais pour le coup avec quelqu'un d'autre, donc Mathieu Dichamp, qui est DG France de PowerDot, qui est une entreprise qui a installé le plus de bornes de recharge rapide en France en 2022, donc avec 569 installations et 6000 de prévues en 2023, donc un vrai décollage. Et eux, ils ont un modèle intéressant, c'est en fait ils sont partenaires de leurs clients, où ils vont installer la borne de recharge typiquement dans des supermarchés, des parkings de supermarchés. Et donc l'idée, c'est qu'ils vont supporter ce coût très élevé, hein, on parle en plusieurs centaines de milliers d'euros, pour partager ensuite les revenus liés à cette recharge. Et donc lui, il m'expliquait ça, c'est c'est clairement leur modèle, c'est la recharge à destination en fonction de leur partenaire, bah, proposer la puissance adaptée, sachant que de la puissance va dépendre le tarif, hein, donc plus on a de puissance, plus en général on paye cher le fameux kilowattheure à mettre dans la voiture. Et donc bien sûr, ça c'est adapté. C'est-à-dire si vous avez par exemple un centre culturel avec des cinémas, etc., ou des gens
qui vont pouvoir passer du temps beaucoup plus longtemps que si je vais au supermarché où je vais me dépêcher de faire mes courses et repartir. Et
exactement. Donc finalement, c'est intéressant de voir comment on va se diriger peu à peu avec des puissances de recharge qui vont varier selon en fait le lieu où on se trouve. La poste, on y reste 15 minutes, bah, c'est bien d'avoir de la charge ultra rapide, ou un fast-food, me parlait PowerDot. Par contre, c'est vrai que des lieux, voilà, où on va rester un peu plus longtemps, ça peut être utile de proposer de la charge ultra rapide pour ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont prêts à payer le prix. Et l'autre élément intéressant, c'est aussi dans la grande distribution. On voit beaucoup maintenant donc des bornes de charge qui sont proposées, et on est en train de sortir un peu d'un modèle gratuit pour l'instant, qui était vraiment pour attirer, on va dire, les premiers pionniers d'électrique. Maintenant, on ne peut plus vraiment parler de pionniers parce qu'ils sont quand même nombreux,
ces utilisateurs
de voitures électriques. Et donc finalement, ça pourrait être le relais des stations-service à prix coûtant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, Leclerc, il attire les clients en disant mon carburant il a pris content, venez chez moi, et après, bah, si vous restez pour faire les courses, c'est bien. Et bah là, finalement, on pourrait imaginer, voilà, des offres comme ça de fidélisation. Associé à la carte fidélité, et avoir, voilà, comme ça une récompense en payant une électricité moins chère pour ensuite aller faire ses courses dans le supermarché en question.
Mais ça va être un vrai sujet, surtout en période de crise énergétique, cette histoire de coût de la recharge.
Bah oui, surtout qu'on en parle beaucoup là en ce début d'année. Il y a plusieurs signaux négatifs qui ont été un peu envoyés, notamment à Paris avec la hausse des tarifs de Bélib. Rouen, j'aime bien cet exemple aussi, c'est parce qu'ils sont en train de lancer leur ZFE, donc on en parle souvent dans En route pour demain, c'est les fameuses zones à faible émission pour réduire la pollution en ville, en excluant forcément les voitures les plus polluantes, mais aussi en encourageant les gens à passer à l'électrique. Et donc bah, derrière, il faut des bornes. Bah, jusqu'ici, Rouen avait des bornes publiques gratuites, et là, ils les passent en payant. Mais finalement, faut voir aussi peut-être le bon côté des choses, c'est qu'il y a des utilisateurs qui étaient bien contents d'en profiter gratuitement, mais qui étaient peut-être aussi très déçus des fois de tomber sur une borne occupée, parce que vous avez ce phénomène des voitures ventouses. Et tout de suite, c'est vrai qu'avec un système de tarification à la minute qui peut s'ajouter des fois au kilowattheure à partir d'un certain temps.
Oui, ça dissuade de s'en servir comme place de parking pendant une nuit ou voire plusieurs jours.
C'est tout un modèle à créer pour finalement avoir la bonne puissance au bon endroit et avec la bonne tarification. On peut aussi aborder rapidement pour finir la difficulté de payer en fait sa recharge, hein, donc avec une carte bancaire en général c'est pas proposé, mais ça va se développer de plus en plus. Pour l'instant, le frein à ça, c'est que finalement le volume de transactions était trop faible pour avoir un terminal de carte bancaire qui soit rentable. Et de toute façon, on rappelle rapidement les enjeux, hein. De toute façon, en 2030, on aura entre 8 et 13 millions de voitures électriques en circulation sur la route, et donc le besoin, il est estimé entre 650 000 et 1 million de bornes publiques en France.
Eh ben merci beaucoup Julien pour cette photographie à l'instant T de notre parc de bornes de recharge en France, et on va passer tout de suite, tu restes avec moi, à l'invité de la semaine.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité.
Et notre invité cette semaine, c'est Alain Roland. Bonjour, vous êtes le fondateur de Station E, donc c'est une société qui commercialise des bornes de recharge, mais qui les exploite aussi. Et votre objectif, c'est d'atteindre les 10 000 bornes, donc d'ici 2027, si j'ai bien tout compris. Mais en fait, plus que des bornes, vous voulez mettre en place un écosystème autour de ces bornes avec des services. Finalement, est-ce que la borne de recharge publique, ça ne va pas être la station-service de demain ?
Alors, disons que la recharge électrique, elle est importante pour la mobilité. Chez Station E, d'abord, on a la Banque des Territoires au capital de l'entreprise avec un fonds d'investissement. L'ambition est de 10 000 stations en France avec un projet d'environ 240 millions d'investissements. Et c'est vrai que notre modèle, il s'appuie sur la recharge électrique, mais aussi sur d'autres aspirations autour des systèmes de télécommunication, des casiers connectés, des voitures en autopartage, ou encore des informations en termes de données pour pouvoir améliorer son parcours client.
Mais alors justement, ces différents services, comment ils sont développés ? Vous avez un catalogue et vous proposez tout. Les collectivités locales vous disent « Moi, je voudrais avoir peut-être plus de covoiturage, mais en voiture électrique, donc vous pouvez peut-être m'aider à le développer et tout en favorisant la livraison. » Comment ça fonctionne ?
Alors, je pars du principe, et c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise, qu'on se chargera sans y penser. On ne va pas faire le plein. On se chargera sans y penser quand on va sur une station. Et donc, on localise nos stations sur des endroits du quotidien. Ça va être pour faire ses courses, du sport, une maison médicalisée. Et en fonction de cet endroit-là, eh bien, on va avoir des partenaires industriels qui, eux, sont intéressés pour aller apporter ce service. Donc nous, on n'apporte pas tous les services. On est un opérateur qui a un réseau physique. On est aussi opérateur de charge. Et aussi, on a la carte Station E qui permet d'aller charger sur 400 réseaux en France. À partir de là, eh bien, on va avoir des partenaires qui, en fonction de l'endroit où on se situe, vont saisir l'opportunité de venir fournir ce type de service. Et donc la collectivité, Et effectivement, en fonction des endroits, par exemple, je prends la ville de Beauvais, puisqu'on a installé des sites, en fonction des endroits, on va avoir quid un casier connecté ou quid des télécommunications.
Et du coup, ça veut dire que vous pouvez aussi, au moment où vous installez la borne, amener, je ne sais pas, de la fibre, par exemple, et ça peut intéresser une collectivité locale, parce que vous amenez les deux, c'est ça le...
Alors, il y a aussi l'emplacement de la fibre, pas toujours, la fibre n'arrive pas toujours là. Dès qu'on amène de la fibre, c'est qu'il y a besoin de très haut débit. Aujourd'hui, sur nos stations, on n'a pas besoin d'avoir du très haut débit. Donc, ce n'est pas notre métier d'amener la fibre. Mais quand on a une station, on a capacité à héberger un certain nombre d'équipements, y compris en télécommunications, qui peuvent être des nœuds de raccordement de fibres, par exemple, et qui peuvent intéresser un opérateur. Pour bien comprendre, c'est que aujourd'hui, j'espère qu'on parlera des prix des charges, c'est que ce qu'il faut, c'est non pas augmenter le prix de la charge pour avoir un modèle qui tourne, mais ce qu'il faut, c'est avoir des charges qui sont abordables pour toute la population et aller chercher des services à côté. Comme Édouard Leclerc, il a ses magasins, il vend de l'essence à prix coûtant et à côté, il a d'autres services.
Et ça veut dire que du coup, d'autres opérateurs qui vont utiliser, se servir de votre borne pour eux développer vos services, vont vous payer une redevance justement quand vous arrivez à proposer un tarif de charge qui soit pas trop élevé, sachant qu'on en parle beaucoup dans cette actualité de crise énergétique.
Alors bon, c'est important puisque le développement durable, c'est écologique, économique, mais surtout social. Donc tout 2023, d'ailleurs, station, vous verrez, on restera à 5 euros les 100 km. C'est-à-dire, en gros, un litre d'essence, c'est 2 kWh, pour vous donner à peu près une ordre d'idée. Et donc, on va rester à ces 5 euros les 100 km, qui sont largement en dessous du prix de l'essence, qui est aujourd'hui, pour 100 km environ, même encore aujourd'hui, 13-14 euros. À partir de là, les industriels, en fait, qui sont intéressés pour venir, en fait, nous achètent un service. Et donc, on est là pour superviser leurs équipements. Par exemple, de l'autopartage, on va être capable d'avoir un opérateur d'autopartage sur lequel on va pouvoir lui donner des informations sur la qualité de son service.
On sait qu'aujourd'hui, la plupart des recharges se déroulent à domicile ou sur le lieu de travail, environ 80-90% des recharges. Pour vous, c'est réaliste le modèle où finalement un particulier, il n'a pas de solution de recharge soit à domicile, soit au travail, et il passe par un réseau public pour se charger au quotidien ou comme on va à la station-service faire le plein?
Alors, c'est comme tout, quand on est en appartement, il y a quand même une grosse partie de la population qui est en appartement, on a le droit à la prise, donc on peut mettre un chargeur dans son garage ou un parking quand on a un. Si les prix sont très très intéressants, on va se retrouver, je pense, avec une grosse partie de clientèle en fait, qui vont finalement pas s'embêter pour avoir des chargeurs chez soi, mais aller directement se charger en ville à des prix qui soient complètement digestes par rapport à ce qu'on peut voir sur les autoroutes aujourd'hui.
On l'a vu, on en parlait tout à l'heure avec Julien, Bélib par exemple, qui à Paris a fortement augmenté ses prix. Vous nous dites, on reste sur nos 5 euros les 100 km. C'est parce que vous avez négocié avec les opérateurs énergétiques, avec les énergéticiens pour conserver ce tarif. Ce sera, par exemple, si j'ai la carte, j'aurai ce tarif-là, mais si je ne l'ai pas, je paierai plein pot. Comment ça va s'articuler?
Disons qu'on a, avec l'augmentation du prix de l'énergie, on a vu que les marges diminuaient. Notre objectif, c'est pas d'avoir absolument des marges sur l'énergie, c'est d'avoir un écosystème sur lequel on va pouvoir avoir une, par habitude, encore une fois, la population a quatre aspirations, c'est je veux pouvoir me déplacer pas cher, simplement, je veux pouvoir communiquer avec mes téléphones, mon smartphone, etc. Je veux aussi de temps en temps, pour les plus jeunes, je veux pas de voiture, je veux en pouvoir en louer une ou aller au casier connecté ou encore avoir des informations. Si on prend ce système dans son ensemble, on voit que finalement, on équilibre un modèle beaucoup plus facilement que ceux qui sont contraints d'aller mettre des prix beaucoup plus élevés.
On en parlait aussi sur la difficulté des fois à payer sa recharge par rapport à un plein, à un station-service qui peut être simple à faire. Vous, votre regard là-dessus, c'est vous pensez proposer une possibilité de payer par carte bancaire ou vous restez sur la solution du badge?
Ce qui est important, c'est que les chargeurs qu'on met, alors d'abord, ça coûte absolument rien à la collectivité puisqu'on prend tout en charge, y compris le raccordement et l'exploitation. Donc on met des chargeurs qui chargent les voitures toutes à la même vitesse. Les chargeurs dits DC. Et on rajoute le TPE, évidemment, sur tous nos chargeurs. Bien évidemment qu'on a une carte station E. D'abord, il faut pouvoir se déplacer avec cette carte partout en Europe. Nos stations, elles acceptent aussi toutes les cartes de tous nos collègues. Pas forcément que des concurrents. Et donc, on a plutôt une logique de partenariat, une logique nationale, d'opérateur. Là où aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est arrêter de penser qu'on va à la pompe électrique.
Voilà. Cet objectif des 100 000 bornes, parce qu'on en parle, on fait un peu le décompte tous les 6 mois d'En route pour demain pour voir où on en est, c'est un bon objectif ou finalement c'est pas tant ça la question que d'avoir des bornes de recharge rapide sur les longs trajets et finalement pour le reste on est déjà bien équipé, notamment parce que beaucoup de gens rechargent chez eux?
Il faudra beaucoup de stations. Alors l'autoroute est particulière puisque c'est une charge de nécessité puisqu'on va à un endroit, donc on est obligé de se charger au milieu et donc rapidement, et on va payer les charges comme on paye un sandwich à ses enfants beaucoup plus cher sur l'autoroute que si on était en ville. Et puis à côté de ça, il va falloir de l'ubiquité, il faut avoir des bornes partout. Je crois beaucoup plus à un très grand nombre de bornes qu'à des hubs de concentration de voitures.
Donc pour vous, il faudrait des bornes à peu près partout, voire comme on pouvait le voir sur des places.
Il faudra plusieurs centaines de milliers de points de charge en fait pour les véhicules. Il y a quand même plus de 30 millions de véhicules privés qui vont passer à l'électrique d'ici 15 ans. Mais vous verrez que ça va encore évoluer. On achètera une voiture ou on louera une voiture avec des kilomètres comme on a un téléphone avec des gigas. Donc vous verrez que ceux qui vendront ou qui loueront les voitures ne seront pas forcément les mêmes. Et c'est pour ça que les constructeurs vont faire du service. Et donc ils veulent ajouter du service dans la voiture là où la voiture elle est un petit peu différente. Voilà.
Écoutez, merci beaucoup Alain Roland d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Et on reste dans le monde de la voiture électrique avec notre essai. C'est le deuxième volet de notre série sur les technologies qui arriveront bientôt dans nos voitures du quotidien et notamment dans nos voitures sportives pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Ces voitures, elles passent aussi au 100% électrique. Julien, avec Jean-David Duhard, tu as fait l'expérience sur circuit avec des modèles Audi.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai.
Nous sommes aujourd'hui au Tech Days d'Audi, donc l'occasion pour la marque allemande de présenter ses dernières innovations technologiques, notamment autour du système Quattro, donc son système de transmission intégrale particulièrement célèbre. Mais nous, on a plutôt choisi de se concentrer sur un aspect tout d'abord, sur la conduite sportive, qui est bien sûr dans l'ADN de la marque Osano depuis bien longtemps. Donc l'enjeu, il est assez simple, c'est de convaincre les utilisateurs de ce genre de véhicule à ma gauche, donc la R8 très célèbre, et donc plus généralement les utilisateurs de voitures thermiques sportives, de passer eux aussi à l'électrique avec la voiture à ma droite, donc la RS e-tron GT en l'occurrence, donc chez Audi. C'est parti pour cette double expérience sur le circuit Paul Ricard avec comme instructeur Christopher. Après quelques tours à bord de l'Audi R8, donc on retrouve finalement les sensations bien connues, notamment en termes de sonorité moteur et même d'accélération sur ces modèles très sportifs à essence. Changement d'univers avec la RS e-tron GT, bien sûr 100% électrique.
Allez, c'est parti.
Un démarrage tout en silence, on change d'atmosphère par rapport à l'Audi R8 avec le Drive Select ici.
Oui.
Vous pouvez choisir votre mode de conduite, plus ou moins sportif. Sur piste, sur circuit, bien sûr, du dynamique sera plus efficace.
Mais c'est vrai qu'on sent que le comportement est complètement différent de la R8 par exemple.
Oui, alors malgré un surpoids par rapport aux véhicules thermiques de la gamme, on bénéficie d'une voiture qui est très basse, avec un centre de gravité très bas et une répartition des poids aussi qui fait que on a beaucoup d'efficacité sur circuit. Donc là, on a la grande ligne droite où on peut profiter d'une accélération qui est identique aux véhicules thermiques et surtout au niveau du couple moteur. Vous voyez, on atteint les 260 déjà, à 265. On va prendre les freins très légèrement.
On va se servir du freinage régénératif avec un véhicule comme ça sur circuit ou c'est vraiment frein accélérateur?
Alors sur circuit, évidemment, on peut garder la performance avec du frein et de l'accélérateur. On peut aussi lever l'accélérateur un petit peu plus tôt pour avoir un petit peu de récupération. Mais si on cherche la performance, il faut quand même utiliser les freins, tout le potentiel des freins.
Et puis il y a quand même une sonorité qui est artificielle, mais qui apporte quelque chose quand même en termes de sensation, je trouve.
Oui, tout à fait. On a quand même une petite sonorité, même si on est dans une ambiance beaucoup plus silencieuse. Et vous avez ressenti le mode dynamique. Dès que vous avez posé le pied sur l'accélérateur, il y a tout de suite du répondant.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité.
Allez, on termine cette émission spéciale recharge avec un peu de prospective. Et cette semaine, Renault et le CEA ont dévoilé un chargeur embarqué bidirectionnel. On va tous vous expliquer, vous inquiétez pas. C'est une innovation technologique qui va arriver en fait d'ici la fin de la décennie dans la gamme Renault. Jean-François Salessy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'ingénierie avancée chez Renault Group. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer, ce nouveau chargeur, quand ça arrivera dans nos voitures?
Alors en fait, on a sur le marché dès aujourd'hui avec les Mégane E-Tech un chargeur de 22 kW qui permet de charger rapidement nos merveilleuses Mégane que je vous recommande d'acheter. Et on est d'ailleurs un des seuls constructeurs à proposer ce type de chargeur de 22 kW. Et qui utilise des technologies carbure de silicium. Dès aujourd'hui, on est relativement en avance. Renault a une grande avance sur le véhicule électrique, comme vous le savez. À partir de 2024-2025, on va faire une première évolution de ce chargeur. On va le rendre bidirectionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va pouvoir restituer de l'énergie au réseau électrique. Donc moi, en tant que particulier, je vais pouvoir faire du trading d'énergie, donc revendre mon énergie quand l'énergie est chère et acheter de l'énergie quand l'énergie n'est pas chère.
Donc j'irai faire le plein pas cher chez Alain et puis hop, je le revendrai beaucoup plus cher.
Exactement, exactement. On va pouvoir, offrir cette nouvelle possibilité aux clients. En moyenne, on estime que ça va permettre à un particulier d'économiser ou de gagner environ 200 euros par an. Si on fait ça régulièrement.
C'est pas
donc, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est 2024-2025. C'est les technologies qu'on maîtrise déjà. Ce qu'on a communiqué aujourd'hui, c'est une évolution de ces technologies qui utilisent des nouveaux composants en nitrure de gallium, technologies qu'on a développées avec le CEA et qui vont permettre d'avoir cette bidirectionnalité du chargeur, mais en plus de gagner très fortement sur les pertes électriques. Donc nos chargeurs vont être plus efficients. On va gagner 30% en termes de pertes. Donc on va passer d'un rendement de 90% à environ 94% dans les deux sens, en charge et en décharge. Ça va nous permettre aussi de gagner en compacité. Donc ça va être des chargeurs plus compacts. Et ça va nous permettre aussi de gagner en coût. Voilà. Et donc tout ça, on va l'introduire plutôt vers la fin de la décennie, à partir de 2027 environ, sur nos véhicules.
Alors j'ai l'impression que cette idée de se dire que demain la voiture, enfin on parle de smart grid, la voiture servira finalement à redonner de l'électricité quand soit on en manquera, soit dans les heures où elle coûte plus cher, ça fait un bout de temps que ça existe. Pourquoi ça arrive maintenant ? Qu'est-ce qui bloquait jusqu'à présent pour que le véhicule soit vraiment intégré dans le réseau électrique et pas simplement un consommateur ?
Alors je pense qu'il manquait deux choses. D'abord il manquait les voitures électriques elles-mêmes qui sont forcées par la réglementation en train de se répandre. Je rappelle qu'en 2035 on sera réglementairement obligé d'avoir 100% des véhicules vendus neufs électriques. Renault sera en avance sur la réglementation de 5 ans, parce que nous, on sera 100% électrique à 2030. Il manquait les stockeurs, finalement, les véhicules qui vont permettre de restituer cette énergie. Et puis, il manquait aussi les chargeurs qui permettent d'avoir cette bidirectionnalité. Donc, c'est des choses qui sont maintenant en train d'arriver. C'est une réalité. Donc, à partir de 2024-2025, c'est là. Voilà.
Et c'est la même technologie que les constructeurs qui proposent du V2L, c'est-à-dire la possibilité d'alimenter des appareils électriques
Après, il y a la micro-alimentation où on y travaille aussi, donc en particulier sur des véhicules utilitaires où on va pouvoir alimenter les outils. Donc l'artisan qui a besoin de réalimenter ses outils électriques qui se répandent de plus en plus pourra le faire à partir de la batterie du véhicule, absolument. Absolument.
Est-ce que ça complexifie est-ce qu'il faut une batterie particulière ou est-ce que ça demande d'imaginer des batteries plus grosses ou pas forcément ?
Pas forcément. Pas forcément. La technologie batterie, on la veut aussi efficiente que possible en termes de densité d'énergie qu'on va pouvoir stocker dans la voiture ou dans la batterie. Mais il faut une chimie qui soit capable de ce qu'on appelle de cycler, de charger, de décharger autant de fois que possible. Mais ça, on y veille déjà. Non, la technologie particulière, c'est la technologie du chargeur qui est à bord du véhicule et qui permet ce dialogue bidirectionnel. Et donc là, le chargeur qu'on est en train de développer avec le CEA, il est vraiment très innovant. Il y a une maîtrise autour de ces composants large bande en nitrure de gallium qui est maîtrisée par le CEA.
Il
maîtrise aussi les algorithmes de pilotage de ce type de composants. On travaille aussi sur ces sujets-là avec ST Microélectronique.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'électronique embarquée
qui nous fournit ces composants. Et donc, c'est vraiment ces technologies de chargeurs qui vont permettre ce dialogue en charge et en décharge avec autant d'efficience que possible. On veut une fois encore réduire les pertes et avoir une efficience à 94% sur nos chargeurs à l'horizon 2027. C'est 11 brevets au total qui sont déposés sur cette innovation qu'on a communiquée aujourd'hui et j'en suis très fier. On le fait avec le CEA.
Hâte du coup de pouvoir l'essayer en vrai. Merci beaucoup Jean-François Salissi d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale qui est consacrée à la recharge. En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous et à la semaine prochaine.
En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.